Les gens comme moi, c'est à la fois faire partie de minorités, puis de minorités dans les jeux de pouvoir hein, de notre société, en tant que femme, en tant que lesbienne, et en même temps faire partie des gens qui ont la chance d'avoir quand même une grande gueule, une capacité à s'exprimer, et aussi bah, aujourd'hui en tant que dirigeante d'association de la société civile, tu vois, pouvoir représenter des citoyens, citoyennes pour porter des messages d'intérêt général. Et donc bah, des gens comme moi, ça prend un peu cette mission à cœur aussi de pouvoir dire des choses, montrer des choses un peu inspirantes pour redonner de l'espoir aux gens et dire bah, vous n'êtes pas tout seul, même dans votre différence, vous n'êtes pas tout seul et on est ensemble et on peut faire plein de choses ensemble.
Eh, on va pas se mentir, ça fait du bien, non? Bah moi, ça me fait du bien en tout cas d'écouter les gens comme elle. Et je peux vous dire que dans Du Poil Sous les Bras, il y en a plein des gens comme elle. Alors bonjour et bienvenue dans une émission où l'on parle de sujets importants en toute simplicité avec des personnes géniales et généreuses. Et donc, bon, vous l'avez reconnu, non? Son dynamisme, son franc-parler, sa clarté, elle mène le combat avec une association qui est sur tous les fronts en ce moment, et c'est assez logique car c'est une association qui se bat pour une alimentation saine pour tout le monde. Et autant on peut vivre sans télévision, sans chaussures à talons, sans Manuel Valls ou autre chose inutile, autant on ne peut pas vivre sans se nourrir au moins un peu.
Bonjour, je m'appelle Karine Jacquemart et moi ça fait plus de 20 ans que j'ai choisi de m'engager dans le milieu associatif. Donc j'ai bossé beaucoup en Afrique avec Action contre la faim et puis après avec Greenpeace International. Et là ça fait 10 ans que je développe avec ma petite équipe une association qui s'appelle Foodwatch en France et aussi à travers l'Europe.
Foodwatch France est une organisation à but non lucratif qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable, peut-on lire sur leur site foodwatch.org. Et c'est quand même fou hein, qu'il faille se battre pour une alimentation sans risque. Foodwatch milite aussi pour que notre alimentation ne porte atteinte ni à l'environnement, ni aux personnes, et c'est pas gagné. Notamment vu le peu de transparence dont fait preuve l'industrie agroalimentaire. Et oui, il est compliqué de savoir exactement comment est produit l'essentiel des aliments vendus par ce secteur industriel. Le conseil d'écoute du jour, c'est donc d'écouter Karine Jacquemart. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les dangers de notre alimentation, dérives et conséquences du système agroalimentaire sur nos vies », un livre paru chez Payot en 2025 et dont la version poche sort d'ailleurs au moment où vous écoutez peut-être l'émission en mars 2026. À l'heure où les scandales alimentaires s'intensifient, où des enfants meurent parfois d'avoir mangé, où de grosses sociétés comme Nestlé ou Danone mentent pour des raisons financières ou tardent à admettre la vérité, il est plus qu'essentiel de soutenir des contre-pouvoirs, des lanceurs-lanceuses d'alerte, des associations et des personnes qui agissent pour qu'on puisse manger sans risque. Du Poil Sous les Bras avec Karine Jacquemart, c'est tout de suite.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Le livre de Karine Jacquemart commence par la colère de l'autrice. Alors j'ai demandé à Karine si écrire lui a permis d'être moins en colère. Alors même que nous, à la lecture du livre, on est de plus en plus en colère.
Oui, j'ai voulu exprimer ma colère. C'est un sentiment que, comme je le raconte en introduction, en fait, j'étais moi-même surprise de commencer par « je suis en colère », mais c'est une colère qui est fondée, qui est légitime, et c'est ce que j'explique avec factuellement, en fait, la description du système agroalimentaire aujourd'hui qui crée des inégalités, détruit le vivant, nous amène dans un mur. Et en fait, j'ai surtout voulu faire écho à la colère que je sens chez les gens, et envoyer un message très fort qui est vous n'êtes pas seul en fait, je suis en colère, vous êtes en colère, je le vois, je le sais, et en décortiquant ensemble justement le système de domination dans le système alimentaire et plus largement dans notre société, c'est un message pour dire aux gens c'est légitime, c'est normal que vous soyez en colère parce que ce qu'on nous impose n'est pas normal aujourd'hui. On est totalement en droit d'exiger davantage de justice sociale et justice environnementale. Et maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire de cette colère? Et moi, j'ai vraiment envie de redonner de l'espoir aux gens et à travers ce bouquin, comme à travers toutes les actions qu'on mène avec Foodwatch, de redonner de l'espoir aux gens et surtout de dire, mais en se serrant les coudes, en se mettant ensemble, on peut faire changer les choses. Utilisons cette colère pour la canaliser de façon à faire un rapport de force non violent mais déterminé pour effectivement remettre de l'ordre dans notre société et notamment dans ce système alimentaire.
Rapport de force non violent. Oui, bon, alors là, je ne vais pas ouvrir le débat sur la non-violence ou pas des actions militantes, mais quand même, hein, quand on voit la violence déployée en face, quand on voit, je le disais en intro, des enfants parfois qui meurent, je pourrais trouver légitime hein, que nous nous défendions un peu plus énergétiquement. Mais en tout cas, ce n'est pas le choix de Foodwatch France, qui se bat avec force et détermination, mais en toute légalité, évidemment. Alors, c'est quoi Foodwatch, puisqu'on en parle ?
Je pense que les gens ont entendu parler de certaines campagnes de Foodwatch, par exemple pour lutter contre les additifs à base de nitrite dans la charcuterie, parce qu'ils représentent des risques pour la santé. Par exemple, des arnaques sur l'étiquette, comme la shrinkflation, qui était une campagne contre l'inflation masquée, quand on avait enquêté et dénoncé des produits alimentaires dont la quantité avait réduit, mais le prix au kilo avait augmenté, le tout en catimini dans le dos des consommateurs. Voilà. Donc, je pense que vous avez entendu parler des campagnes. En tout cas, Foodwatch, qui est récent, puisqu'on a 10 ans en France et un peu plus de 20 ans en Europe, c'est une association totalement indépendante. Ça veut dire qu'on refuse toute subvention publique ou don d'entreprise. C'est vraiment financé par les gens, par les citoyens, les citoyennes et leurs dons, pour qu'on ait l'indépendance de mener les enquêtes qu'on veut, l'indépendance du ton, l'indépendance de pouvoir dénoncer les pratiques abusives en donnant les noms des produits, des marques, par exemple quand il y a des pratiques de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution ou même l'État qui trop souvent ne joue pas son rôle pour défendre ce qui est l'objectif de Foodwatch, c'est-à-dire le droit pour toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, à prix juste pour les agriculteurs, agricultrices et à prix abordable.
L'État ne joue pas son rôle et pourtant l'État devrait évidemment être attentif au fait de bien ou mal manger. C'est une question de santé publique. Laisser les industriels vendre des produits de mauvaise qualité qui seront achetés d'abord par les personnes les plus précaires, c'est aussi une question de justice sociale. Et c'est un des buts du livre d'ailleurs, je crois, de faire comprendre à tout le monde que mal manger, c'est un problème de justice sociale et ce n'est pas acceptable.
En 2002, il y a 800 millions de personnes à peu près qui sont confrontées à la faim dans le monde. Le problème du constat aujourd'hui, 2025, 2026, là, c'est qu'on a toujours 800 millions de personnes qui sont confrontées à la faim dans le monde. Donc on n'a rien réglé, alors qu'on sait depuis le début, c'est largement documenté que c'est pas une fatalité, que en fait c'est totalement des choix politiques et de mauvaise répartition de richesses, voire de manipulation des populations dans certains cas. Et en parallèle, on voit surtout qu'il y a une courbe qui a en plus dépassé ça, donc un deuxième problème qui s'est rajouté, qui est que, en fait, on a une courbe de surpoids et d'obésité dans le monde qui est trois fois plus grave que le problème de la faim aujourd'hui. Et en fait, quand on creuse, et c'est ce que j'ai voulu démontrer, quand on creuse, on se rend compte que c'est une minorité d'acteurs, de mastodontes, d'entreprises multinationales, que ce soit sur le contrôle des semences, sur le contrôle des céréales, du marché des céréales, puis après, les géants de l'industrie agroalimentaire. Et si on zoome sur la France, on arrive comme ça à un goulet d'étranglement où on se rend compte que les cinq plus grandes enseignes de supermarchés contrôlent 80% du marché alimentaire. Donc en fait, on nous impose un système qui, on va revenir sur pourquoi, mais qui en fait est totalement dominant et qui surtout, pour le profit de quelques-uns, nous impose quelque chose qui a des effets désastreux sur la santé publique, sur l'environnement, sur les aspects économiques, etc. Donc première chose, c'est que de là où je parle moi de mon expertise, de mon expérience et des témoignages que j'ai voulu raconter aux gens aussi de stratégies des lobbies, de rendez-vous dans les ministères, se dire, en fait, quand on regarde ce système de domination et de discrimination qui creuse les inégalités de mon expertise sur l'alimentation, malheureusement, on se rend compte que c'est aussi le reflet, la fenêtre sur toute la société et qui reflète aussi les dominations, les discriminations dans le reste de la société au-delà de l'alimentation. Donc c'est très fort parce que par ailleurs, le fil rouge de l'alimentation, il vient du fait que l'alimentation, c'est puissant parce que c'est à la croisée des enjeux, enjeux environnementaux, enjeux de santé publique, enjeux économiques, enjeux même de démocratie. Et donc ce levier d'alimentation, si vous le mettez dans de mauvaises mains, bah, contrôler l'alimentation, c'est contrôler les populations. Mais le bon espoir, et ce que je veux aussi du coup partager avec les gens, c'est que si on le met en de bonnes mains, et donc nous, on peut se réapproprier cette alimentation et ce droit à choisir notre alimentation pour une alimentation saine et durable, et là, on a un levier très fort pour remettre dans l'ensemble de la société de la justice sociale, de la justice environnementale, et surtout réconcilier réconcilier agriculteurs, agricultrices et consommateurs, consommatrices qu'on cherche à opposer, réconcilier production agricole et protection de l'environnement qu'on cherche à opposer. Toutes ces oppositions sont artificielles. C'est la stratégie du diviser pour mieux régner, encore une fois, pour que une petite minorité dominante et qui tire profit de ce système continue à faire comme si de rien n'était, quoi.
Et oui, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Quand le président de la coordination rurale, Bertrand Ventot, dit qu'il faut faire la peau aux écolos, pourquoi agit-il ainsi? Qui lui a bourriné le crâne pour lui faire croire que son ennemi c'était l'écologie? Ou alors, quels sont ses intérêts cachés en disant cela? Veut-il continuer de produire de la nourriture pleine de produits chimiques qui nous empoisonnent? Je rappelle que la coordination rurale est un syndicat agricole dont le président actuel Bertrand Ventot, outre de vouloir en finir avec les écolos, veut en finir avec l'Office de la biodiversité, trouve que l'extrême droite a de très bonnes idées et doute en prime du réchauffement climatique. Alors je m'arrête là, vous aurez compris normalement que c'est un syndicat agricole qui ne solutionnera pas le mal-être du monde agricole. Le problème, donc, avec la petite minorité dominante et bruyante dont parle Karine Jacquemart, c'est qu'elle est très bien organisée et politiquement, et bien du coup, ça bouge pas tant.
Et c'est d'autant plus vrai en ce moment où on parle de backlash écologique et social et les politiques en France comme au niveau de l'Union européenne, là, en ce moment, font vraiment froid dans le dos. Parce que non seulement on a du mal à conquérir davantage de droits, par exemple, je mentionnais faire interdire des additifs dangereux pour la santé, qui pourtant, on voit bien que l'industrie sait faire autrement, comme les nitrites dans la charcuterie, faire interdire des pesticides, eux-mêmes dangereux pour la santé, tout en accompagnant bien sûr les agricultrices, agriculteurs dans cette sortie. Tout ça, on voit que c'est fastidieux pour l'obtenir. Encadrer également le marketing, la publicité qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Autant de mesures qui paraissent être des mesures non seulement de bon sens, mais qui répondent même à ce qui sont des droits fondamentaux, notamment quand on parle de santé publique, mais qu'on a du mal effectivement à obtenir. Et puis en plus, en ce moment, il y a une histoire de backlash. Pour autant, face à ça, la pire des choses que l'on pourrait faire, c'est d'abdiquer. La pire des choses que l'on pourrait faire, c'est de considérer que finalement, quelque chose de totalement inacceptable devient la norme et de penser qu'on est impuissant. Et bien sûr qu'on pense souvent qu'on est impuissant, et je le comprends, mais quand on voit dans la réalité de tous les combats sociaux et tous les combats environnementaux, et bien sûr, ils sont toujours liés pour combiner les choses, eh bien, ça paraît toujours impossible au début, mais ce que j'ai voulu rappeler également dans la troisième partie du livre, c'est justement que tous les combats qui paraissent impossibles au début, et les combats de David contre Goliath, en fait, on finit par gagner. On finit par gagner quand c'est légitime et quand c'est dans l'intérêt de la majorité, que ce soit sur des combats liés à l'alimentation ou pas. Donc, ne vous faites pas impressionner par le fait que ça a l'air difficile au début. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a deux façons importantes de pouvoir se mobiliser, si vous voulez. Il y a la première, de se mettre ensemble dans des associations comme Foodwatch et plein d'autres. On bosse en coalition avec plein d'autres, c'est hyper important. Mais pour effectivement se dire, on enquête, on dénonce, on fait David contre Goliath. Et ça marche dans une certaine mesure. Et plus on sera nombreux et nombreuses, aujourd'hui c'est plus de 530 000 abonnés à la newsletter gratuite, il faut qu'on soit encore plus nombreux, mais ça marche dans une certaine mesure parce que justement on casse le climat d'impunité de ces décideurs politiques et de ces multinationales qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi puisqu'ils n'ont jamais de compte à rendre. Et je vous donne un exemple pour redonner de l'espoir concrètement. Je pense que tout le monde, là, toutes les personnes qui nous écoutent ont entendu parler du scandale des eaux en bouteille qui ont été filtrées illégalement. Nestlé Waters, pour ne pas le citer, et Sour Salma, une autre entreprise. Et même l'État, en tout cas des responsables politiques, qui ont été clairement complices, d'après les enquêtes, de cette fraude massive. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Foodwatch, dès le début 2024, quand cette enquête est sortie par des journalistes d'investigation de Radio France et du Monde, Foodwatch a porté plainte immédiatement contre cette fraude et aussi pour risque de santé publique, etc. Il y avait 9 infractions. Cette plainte a été délocalisée de Paris à Épinal parce qu'il y a plusieurs forages Nestlé à Épinal. Bon voilà, ok, très bien. Sauf que on a appris à l'été 2024, par notre avocat qu'il y avait une transaction financière entre Nestlé et le tribunal d'Épinal, ça arrive. Voilà. Mais en tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. On nous a demandé à combien on estimait le préjudice. Et du coup, on a évidemment refusé. Mais en tant que contre-pouvoir citoyen indépendant, on a pu faire ça. C'est-à-dire que parce qu'on a les moyens d'être ensemble, parce qu'on est déterminé et parce qu'on est indépendant, on a refusé cette transaction, on a reporté plainte. Et pourquoi c'est fait pour redonner de l'espoir aux gens? C'est que cette plainte, aujourd'hui, elle a donné lieu à ce qu'il y a deux juges qui se sont saisis du dossier. L'enquête est en cours. À l'été 2025, vous avez peut-être entendu dire dans les médias qu'il y avait eu une perquisition chez Nestlé. Et l'enquête continue à être en cours au pénal. Et on espère bien qu'il y aura des sanctions dissuasives. Quoi qu'il en soit, le message qu'on passe dans toutes les enquêtes de Foodwatch, et haut et fort, et très souvent dans les médias, c'est pour justement dire à tout le monde, à commencer par ces multinationales et aux responsables politiques, on vous voit, on ne va pas laisser faire sans rien dire, et maintenant, quand vous faites des pratiques abusives, il va falloir rendre compte publiquement. Donc plus on a de poids, plus on fait ça, plus on va, en fait, évidemment, peser dans le rapport de force. Aujourd'hui, tant qu'ils peuvent continuer, encore une fois, sans avoir aucune contrainte, aucune sanction, eh bien, ils vont continuer. Mais ça n'est pas possible de laisser faire, et c'est pour ça qu'on se met au milieu du guet. La deuxième façon de réagir, on tient tête, on résiste, mais on peut aussi réinventer. Et moi, je veux redire aux gens ici que les actions collectives, c'est une chose et c'est essentiel, mais vous pouvez aussi, à l'échelle individuelle, à l'échelle locale, réinventer plein de façons de remettre du lien social, de se réapproprier un espace démocratique, son alimentation, etc. Donc comme je dis toujours, en ce moment, j'aime bien dire ça, moi ce que je vous propose, c'est vraiment le trio résister, réconcilier, réinventer. Voilà. On peut faire les trois, et chacune, chacun, à notre niveau, on peut contribuer, rien n'est inutile, tant qu'on se place en tant que citoyennes, citoyens qui voulons refaire valoir nos droits.
On est si fragile, mon Dieu, on est si...
petite blanc dans du poil sous les bras.
Dans son livre « Les dangers de notre alimentation », Karine Jacquemart nous dit qu'il faut remettre de la démocratie dans l'assiette. L'alimentation, c'est un enjeu démocratique. Alors, j'ai bien compris que pour résister à la soi-disant fatalité d'une mauvaise alimentation, il faut soutenir les associations de lutte et agir collectivement, mais aussi individuellement. Pour autant, on est bloqué parfois par ce système. On n'a pas tous et toutes les possibilités de résistance à ce système agro-industriel.
C'est quoi ce système dont on parle? Et c'est quoi le constat aujourd'hui? Le constat, c'est qu'on a en France un agriculteur et une agricultrice sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même fou, parce que ce sont ceux qui sont censés nous nourrir. À l'autre bout de la chaîne, on a plus de 10 millions de personnes, c'est mal chiffré, mais c'est sûr que c'est plus de 10 millions de personnes en France qui sont confrontées à la précarité alimentaire. C'est intolérable. Enfin, c'est intolérable partout dans le monde. Mais en France, on est en plus, quoi qu'on nous dise, dans un pays très riche. Et donc, c'est évidemment pas une fatalité. Et au milieu, on a quelques dizaines de géants de l'industrie agroalimentaire et quelques enseignes de la grande distribution. 5 plus grandes enseignes de la grande distribution contrôlent 80% du marché. Mais il faut aussi redire que à peu près 60% des achats alimentaires des gens en France se font dans les supermarchés, et même un peu plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne nous parle jamais de la responsabilité de ces acteurs du milieu, mais ce sont bien eux qui contrôlent ce à quoi on a accès ou non dans les rayons. C'est-à-dire que quand on contrôle 80% du marché, quand on est des supermarchés, c'est eux qui décident quel produit va y avoir dans les rayons, avec quelle qualité ou pas, et à quel prix. Or, quand on gratte un peu ce système de prix, justement, on se rend compte de quoi? D'abord, on se rend compte qu'il y a à peu près 75% des produits dans les supermarchés aujourd'hui qui sont des produits ultra transformés. Or, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui pointent du doigt des risques pour la santé accrus quand on s'alimente beaucoup de produits ultra transformés. Ensuite, on se rend compte qu'il y a une tendance assez fâcheuse à surmarger sur les produits les plus sains et les plus durables. Or, encore une fois, l'accès à une alimentation saine, c'est un droit. Avoir accès à une alimentation qui va garantir la santé publique, c'est un droit. Et cette opacité sur les prix, sur les marges, on l'avait documenté fin 2023. Vous vous rappelez, c'était le plus haut de l'inflation quand il y avait eu plus de 20% d'augmentation sur les prix en 2 ans sur les produits alimentaires et les queues de l'aide alimentaire qui s'allongeaient. On avait creusé, on a d'ailleurs un communiqué de presse qui continue à donner les chiffres sur notre site internet de novembre 2023, et on avait démontré qu'il y avait une opacité totale sur les marges et les prix. Donc en fait, vous ne voyez pas Nestlé, ils prennent quoi au passage? Le distributeur, il prend quoi au passage? Et combien finalement l'agriculteur a été rémunéré? Ce qu'on voit simplement, c'est qu'on ne comprend rien à cette construction des prix, qu'il y a donc cette tendance à surmarger sur des produits sains, et surtout ce discours de la grande distribution qui vous raconte en permanence sur les radios et les télés que ce sont les alliés des consommateurs parce qu'ils sont là pour vous proposer des produits pas chers. En fait, en termes d'alliés, c'est vite dit, parce que c'est peut-être pas cher pour le porte-monnaie, mais c'est très cher pour la santé publique. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé ces produits pas chers, quelles étaient leurs qualités. On a mené 2 enquêtes avec Foodwatch. Eh bien, on a comparé dans 12 catégories de produits, les 5 produits les moins chers, les 5 produits les plus chers, quelle quantité moyenne de sucre. Dans les 12 catégories de produits, on s'est rendu compte, d'abord, j'en profite pour partager cette alerte, il y a beaucoup trop de sucre ajouté dans beaucoup trop de produits, y compris là où il n'a rien à faire, et notamment dans des boîtes de conserve de petits pois, par exemple. Donc là, l'information est accessible dans la liste d'ingrédients. Allez voir la liste d'ingrédients pour une fois que l'info est accessible. Mais méfiez-vous des produits, même là où on ne s'attend pas à avoir du sucre. Mais donc, dans les 12 catégories de produits qu'on a étudiés, eh bien, systématiquement, les 5 produits les moins chers étaient en moyenne plus sucrés que les 5 produits les plus chers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez moins d'argent, on va vous mettre un produit qui a moins de qualité nutritionnelle et plus de sucre. Deuxième enquête, qui est très frappante, on a regardé avec d'autres associations 5000 promotions dans les supermarchés. Sur les 5000 promotions, 66%, les 2/3 de ces produits étaient des produits contraires aux recommandations de santé publique. contraire aux recommandations de santé publique. C'est-à-dire que la grande distribution attire des gens pour faire des profits sur le volume en vendant des produits pas chers, mais qui, à chaque fois qu'on creuse un peu, se révèlent être des produits qui sont loin d'être sains et durables. Donc, on se retrouve avec un constat de maladies chroniques. L'Organisation mondiale de la santé décrit comme une épidémie de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, cancer, pour lesquelles, évidemment, l'alimentation n'est pas la seule cause, mais est reconnue comme une des causes majeures. On se retrouve avec des inégalités qui sont de plus en plus creusées et une part de la population importante qui a de moins en moins le choix de ce qu'elle peut acheter, non seulement parce que l'alimentation est devenue une variable d'ajustement, mais aussi parce que du coup, dans les rayons, ils n'ont pas le choix, les gens. Ils ont un choix extrêmement limité par rapport à l'offre que je viens de décrire. Et le tout, en plus, a des coûts phénoménaux pour la société, puisque c'est estimé à plusieurs milliards d'euros. Je remets tous les chiffres, toutes les sources dans le livre, si ça vous intéresse. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans un débat public où on nous dit « il n'y a pas d'argent dans les caisses », il faut réduire un petit peu les aides sociales et par contre, il faut continuer à aider les entreprises. En fait, on continue à mettre de l'argent public sur un système où cette industrie agroalimentaire et la grande distribution fabriquent de toutes pièces de la précarité alimentaire alors qu'elle était évitable et des maladies liées à l'alimentation alors que c'était évitable. Et pour autant, on ne met jamais la responsabilité sur eux et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant que lanceur d'alerte et en tant que citoyens, citoyennes ensemble. Et on essaye de nous faire croire, vous l'entendez cette petite musique, divisée pour mieux régner, que c'est parce que les consommateurs veulent des produits pas chers, que les agriculteurs sont mal payés. On nous fait croire que c'est parce qu'il faut soi-disant produire plus, qu'il faudrait plus de pesticides et que les normes environnementales seraient un problème, alors que tout ça est faux. Tout ça est faux. Et surtout, la question de la responsabilité individuelle est le dernier mensonge qui est absolument désastreux, qui consiste à vous laisser croire que c'est un peu de votre faute, particulièrement quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est un peu de votre faute si vous n'achetez pas les bons produits qui sont bons pour votre santé et que, du coup, vous tombez malade ou vous êtes en surpoids ou obèse. Et ça, c'est totalement scandaleux parce que la réalité, c'est que ce système que je viens de décrire fait que, factuellement, les gens n'ont pas beaucoup le choix de ce qu'ils vont pouvoir s'acheter à manger, encore moins quand ils ont un budget très limité. Et ça n'est pas possible de détourner l'attention de la responsabilité des Nestlé, Lactalis, Danone et compagnie, de la grande distribution qui se prétend les alliés mais qui ne joue pas du tout ce jeu-là, et des autorités publiques qui ne remplissent pas leur rôle pour défendre les droits fondamentaux et la santé publique. Et non seulement on prive les gens de leurs droits et on les amène vers des maladies liées à la malbouffe, mais en plus on les fait culpabiliser sous prétexte que ce serait leur responsabilité. Et donc cette petite musique pour finir, elle se retrouve dans des témoignages que je raconte dans les ministères où je vais évidemment régulièrement pour pousser pour des mesures fortes pour changer ce système, et où régulièrement on finit par me dire dans des rendez-vous, mais quand même, c'est avant tout une question d'éducation, non? Eh bien, non, c'est scandaleux, et ensemble, on peut vraiment casser ces préjugés. Et ça, on peut le faire à l'échelle locale, on peut le faire dans les repas de famille, autant que moi, je vais le faire dans les médias, pour redire haut et fort, on vous voit faire une stratégie de diversion et de diviser pour mieux régner, chercher à nous parler de la responsabilité individuelle. Bien sûr que chacun a une part de responsabilité, bien sûr que l'éducation c'est un sujet important, mais ça ne masquera pas et ça ne cachera pas le fait que la première responsabilité ici, c'est ce système qui est verrouillé et tant qu'on ne changera pas l'offre dans les supermarchés et avec des alternatives en dehors de ces supermarchés, eh bien non, ça n'est pas une question de responsabilité individuelle, c'est une question de responsabilité et de choix politique.
Le message est clair. Arrêtez de culpabiliser. Si vous mangez mal, c'est parce que cela a été décidé politiquement. C'est parce qu'on laisse les industriels mettre du sucre partout, appauvrir les valeurs nutritives, le tout en sous-payant les agriculteurs et les agricultrices pour le profit de quelques actionnaires qui, eux, ne mangeront pas de ce pain-là. On devrait obliger les PDG et actionnaires d'Auchan, Leclerc, Carrefour à manger tous les produits vendus dans leur grande surface. Vous verrez qu'ils feraient un peu plus le tri entre malbouffe et bonne bouffe. Alors, même si le système paraît verrouillé, nous pouvons agir. Pour cela, il va falloir qu'on mette à jour les stratégies des personnes et des organisations qui veulent nous faire croire qu'on n'a pas le choix.
En face, il y a une grosse idéologie quand même néolibérale et aussi une grosse idéologie un peu populiste qui cherche à simplifier à outrance, mais pour nous faire croire des choses qui sont fausses. Donc je reviens sur juste deux mensonges concernant l'agriculture et je parle des portes tournantes juste après. Le premier mensonge, et je le dis parce que vous allez l'entendre et donc je veux réarmer de façon non violente aussi les personnes qui nous écoutent pour pouvoir entendre en fait quand on raconte des choses qui ne vont pas dans le bon sens. On entend beaucoup ce discours, vous savez, sur la souveraineté alimentaire. Il y a quand même la guerre aux portes de l'Europe, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc quand même la souveraineté alimentaire, c'est hyper important. Et donc, ça veut dire, nous disent-ils, ça veut dire que surtout, faut pas de normes environnementales, faut produire plus à coup de pesticides, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir nourrir tout le monde et qu'on va pouvoir être autosuffisant, etc. Ça, typiquement, c'est comment une minorité cherche à imposer un discours dominant. Alors, aussi, en se servant des médias qui, aujourd'hui, sont de moins en moins indépendants et tout. Mais c'est pas pour ça que ce discours dominant, on est obligé de l'accepter. Et donc, on a une guerre culturelle un peu à mener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir démanteler ces mensonges. C'est un double mensonge. Parce que, un, la vraie définition de la souveraineté alimentaire, et c'est important, ça, de l'avoir en tête, parce que c'est ce qu'on veut défendre. En fait, la vraie définition de la souveraineté alimentaire, c'est assez beau. C'est une définition des Nations Unies, et c'est le droit des peuples à définir ce qu'ils veulent manger et à comment ils veulent le produire. C'est génial, parce que c'est vraiment de la démocratie alimentaire. C'est comment on choisit. Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne nous laisse pas le choix. Donc, premier mensonge, ce n'est pas la bonne définition. Ensuite, si cette minorité-là qui veut nous imposer une agriculture toujours plus intensive, pesticidée de façon chimique, et toxique, parle d'autonomie, parce qu'en fait c'est ça qu'ils invoquent, c'est une sorte d'autonomie alimentaire. C'est faux de penser qu'il faut plus de pesticides et qu'il faut rester dans le modèle agricole dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi c'est faux? D'abord parce qu'on importe la majorité des pesticides de synthèse et des engrais de synthèse qu'on utilise, et ça on nous le dit jamais, donc à quel moment on est autonome si on dépend de ces importations? Et ensuite parce que si on regarde un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez, en fait, même regarder la question de contaminer les sols, les eaux, on voit avec le scandale, même le scandale des eaux, soi-disant minérales, que les eaux les plus profondes censées être pures, même elles sont contaminées par des résidus de pesticides et des contaminants comme les PFAS, ces polluants éternels. En fait, tout ça n'a pas de sens parce qu'on est tellement en train de contaminer. Ce que ça veut dire, c'est que même si on regarde sur une question productiviste, on est en train de détruire notre outil de production agricole de demain. Donc ça n'a aucun sens. Donc ce sont des gens qui cherchent en fait à maintenir un intérêt court-termiste qui ne touche qu'eux. Et c'est qui? C'est là que je reviens sur les agriculteurs, c'est qui? Et du coup, regardons qu'en fait, il y a des groupes différents avec des intérêts différents. En gros, si je simplifie, disons qu'il y a trois grands groupes. Il peut y avoir le groupe de ceux qui font déjà du bio, de l'agroécologie. Je rappelle qu'il est démontré, et les références sont encore une fois évidemment dans le livre, il est déjà démontré qu'on peut nourrir la planète avec de l'agroécologie. Encore faudrait-il se mettre autour de la table pour une vraie transition en accompagnant les agriculteurs et agricultrices. Mais donc, il y en a qui font déjà les choses de cette façon-là. Alors, ils ne sont pas aidés. Du coup, malheureusement, il y en a aussi qui arrêtent de le faire parce qu'ils ne sont pas subventionnés et pas aidés. Mais il n'empêche que ça existe déjà. Il y a la minorité qui nous bloque, qui veut continuer à nous imposer ce système, à ne surtout pas en sortir parce qu'ils en profitent, c'est qui? C'est très simple, c'est une question d'argent, comme toujours. Donc vous avez peut-être entendu parler de la PAC, c'est du coup le programme agricole commun, et c'est hyper important que l'Union européenne, effectivement, ait des politiques, normalement, de protection et de transition, sauf que cette politique, pour le moment, ne va pas dans le bon sens, puisqu'elle donne des subventions qui sont basées sur les surfaces essentiellement cultivé. Donc pas du tout sur des critères de durabilité, de bien rémunérer les agriculteurs, c'est pas ça. C'est sur, en gros, le côté intensif et surface cultivée. Résultat, cette PAC, c'est plus de 53 milliards d'euros par an pour tout le programme agricole en Europe. En France, c'est 9 milliards d'euros par an. On est le pays qui reçoit le plus. Mais sur ces 9 milliards d'euros par an, qui en profite? Eh bien, vous avez 20% des agriculteurs et agricultrices en France qui mettent la main sur 50% du gâteau. Voilà. Ça veut dire que ces 20%-là, qui sont notamment ceux qui défendent une agriculture pesticidée. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ce sont notamment ceux qui profitent de ce système-là. Et rappelons que, par exemple, à la tête de la FNSEA, qui est un syndicat très important, qui, du coup, soutient plutôt ce modèle agricole intensif. Pourquoi? Rappelons que son président, c'est Arnaud Rousseau. Et Arnaud Rousseau, c'est pas un petit paysan, hein. Arnaud Rousseau, c'est un PDG d'une multinationale d'agroalimentaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il défend? Il défend, en fait, une agriculture d'exportation. Il défend une agriculture intensive. Il défend une agriculture avec des pesticides. Et c'est eux qui bloquent. Mais tant qu'on nous fait croire que c'est pour la souveraineté alimentaire au sens noble, tant qu'on nous fait croire que c'est la majorité des agriculteurs et agricultrices, eh ben en fait ça infuse, et beaucoup de gens, et c'est normal, qui nous écoutent, le croient aussi. Mais quand on commence à se dire et à faire ce qu'on est en train de faire, toi et moi là, de dire ben en fait tu sais quoi, on prend le micro, on explique, on redonne de l'information aux gens, parce que l'information c'est le pouvoir, pour justement comprendre qu'on nous impose ce modèle alors qu'il n'y a pas de raison, et que oui, il existe des alternatives, alors on reprend le pouvoir. Surtout que la troisième catégorie d'agriculteurs et agricultrices, qui est au milieu là, la majorité, mais en fait on leur a imposé aussi le système, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a intensifié l'agriculture, il y a eu un remembrement, il y a eu plein d'incitations aussi progressivement à dire, bah attends, il va falloir agrandir les surfaces, du coup il faut s'équiper, du coup endettez-vous pour agrandir vos exploitations, etc. Et en fait, on se retrouve avec plein de nos agriculteurs et agricultrices à qui on a imposé ce modèle, on ne leur a jamais laissé entendre qu'il pouvait exister autre chose, ils sont endettés jusqu'au cou. D'ailleurs, malheureusement, c'est une des professions qui est la plus exposée au taux de suicide, parce qu'on met aussi les gens dans des situations impossibles, alors que quand on les interroge, les sondages sont extrêmement clairs. Bien sûr que ce sont les premières et les premiers à vouloir sortir d'un système toxique qui est dangereux pour la santé, et ce sont les premières victimes pour la santé, sur l'usage des pesticides de synthèse, et qui contaminent les sols, alors qu'on pourrait faire autrement. Encore faudrait-il pouvoir accompagner ces personnes, les mettre autour de la table, déjà les écouter sur comment on pourrait faire la transition et les accompagner pour rendre cette transition possible. Mais qui dit transition dit sortir du système actuel, et c'est la petite poignée qui détient le pouvoir qui nous en empêche. Mais ça, c'est pareil, ça n'est pas une fatalité, parce qu'on est quand même nombreux, nombreuses, et puis tant qu'on est encore dans un système un peu démocratique, il y a des votes à la clé. Et on a encore la possibilité, du coup, de peser en tant que citoyenne, citoyen, dans un bon rapport de force, non violent, mais déterminé, et puis de mettre aussi des gens au pouvoir qui ne prendront pas ce genre de décision, mais qui seront enfin en capacité de nous acheminer vers cette transition. En tout cas, c'est ce qu'il faut préparer.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, en vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assis, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine, aussi. Désolée les gars, mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la tête. Moi je préfère les filles. femmes, les meufs.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Il y a quelque chose de très marquant chez les personnalités militantes comme Karine Jacquemart, c'est cet optimisme ou plutôt peut-être cet espoir qu'on va y arriver. On peut faire bouger les choses. Ok, il y a des reculs, c'est pas facile, mais il y a des avancées et il faut aussi les voir et continuer d'y croire.
Pour moi, il est hors de question, quand vraiment on comprend comment ça marche, quand vraiment on voit que c'est quelques personnes qui nous imposent ça, et qui profitent, parce qu'on les entend hein, parfois dire, on les entend dire « Ah, ça passe, ah, t'as vu, c'est passé », qui profitent du fait que quand ils tentent des trucs, même incroyablement contraires à l'intérêt général, ça passe. Moi, en tout cas, j'ai un appel dans l'estomac qui me fait me mettre debout, me mettre devant, sur leur route, et dire « Attendez, on va pas vous laisser faire sans rien dire, quoi ». Première chose. Deuxième chose, comme je le disais au début, tous les combats paraissent impossibles au début. Et c'est fastidieux, c'est fatigant, donc attention à la fatigue militante, je le dis aussi. Je suis pas en train de dire il faut militer à tout prix, c'est hyper important de prendre soin les unes des autres. Moi, j'ai plus de 20 ans de militantisme là dans les pattes. Je te cache pas que oui, ça me fatigue, et oui, je trouve ça révoltant de devoir se battre pour des choses qui sont évidentes, et qui sont essentielles, et qui sont des droits. Maintenant, puisque c'est comme ça, puisque eux cherchent à nous imposer ça, en tout cas, la moindre des choses, c'est de ne pas les laisser faire facilement et de renverser la vapeur. Et je suis sûr qu'on finira par y arriver. D'abord, on a des victoires, on peut revenir dessus, il y a quelques victoires. Mais surtout, parce que ça se voit. Et c'est pas parce qu'on a raison, je suis pas en train de dire c'est parce qu'on a raison qu'on va y arriver. Ça ne marche pas. On est dans un rapport de force, malheureusement. C'est la réalité. Mais encore une fois, le contre-pouvoir citoyen, citoyenne, et surtout le fait de mettre un coup de projecteur, ça peut marcher. Parce que c'est quoi leur talon d'Achille ? Leur talon d'Achille, c'est le risque réputationnel et c'est d'avoir à rendre des comptes. C'est l'exemple que je donnais avec Nestlé, mais qui vaut aussi pour des responsables politiques. Je te donne un exemple avec la loi du plomb. Bon, malheureusement, elle a été votée. Ok, certes, mais quand elle a été votée, on a fait tellement de bruit avec les autres associations et même avec une mobilisation sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça a obligé quoi ? Ça a obligé... D'abord, il y a plusieurs députés qui ont changé de vote, qui allaient voter pour et qui ont voté contre. Alors, on n'a pas eu assez de temps pour faire changer la majorité, mais ça a quand même changé le rapport de force et certains votes. Et ensuite, on a obligé des gens comme Gabriel Attal ou Agnès Pannier-Runacher qui ont voté pour, mais qui ont reçu tellement de pression par les réseaux sociaux et sur les médias qu'en fait, ils se sont sentis obligés de rendre des comptes et de s'expliquer publiquement sur les réseaux sociaux sur pourquoi ils avaient voté ça. Ça a l'air de rien, moi je vous dis que ça, c'est hyper important. Parce que c'est le moment où on arrive à être suffisamment malin et puissant pour envoyer le message de dire, vous allez, c'est fini de vous laisser faire et que ça passe incognito, quoi. Pas vu, pas pris, y en a marre. Et on va vous obliger maintenant à rendre des comptes et à devoir vous expliquer face aux électeurs, face aux citoyens, pourquoi vous votez ça, pourquoi vous faites autant d'alliances, là, avec l'extrême droite sur les votes que vous êtes en train de faire, hein, sur la loi du plomb et d'autres lois inacceptables. Il y a des alliances, là, avec l'extrême droite qu'on n'aurait pas vues il y a quelques années, qui sont intolérables. Et je suis persuadé qu'en mettant plus de coups de projecteur et en obligeant ces gens à rendre des comptes devant les citoyens et les citoyennes, alors on peut faire changer les choses.
Alors c'est vrai, les lignes bougent, notamment, comme le dit très justement Karine Jacquemart, grâce à des multimobilisations. Quand elle dit « on s'est organisé », eh ben c'est Foodwatch et d'autres organisations et des individus sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est cette union, cette coalition de groupes de pression qui est essentielle pour faire front.
Tout est lié et il faut vraiment être intelligent en fait, en faisant des coalitions et en faisant des synergies, en ramant dans le même sens, en montrant qu'on fait un front uni. Alors sur l'agriculture et l'alimentation, on le fait beaucoup. Il y a notamment un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui réunit plus de 50 organisations, que ce soit des organisations paysannes, associations de consommateurs, associations de protection de l'environnement, associations qui luttent contre la précarité alimentaire. Pourquoi ? Ben parce que ça nous permet de montrer à chaque fois qu'en fait, ce sont les mêmes facettes d'un même système et d'une même solution. Quand on dit, ben, ça veut dire quoi concrètement œuvrer pour le droit à une alimentation saine, choisie, durable, qui rémunère bien et en même temps sans pesticides, ben, on a tous les pans en fait de la solution qu'on met ensemble et on lutte ensemble. Et d'ailleurs, sur la loi du plomb, je ne voudrais pas rester sur l'idée que c'est un échec total. Ça n'est pas un échec total. Elle a certes été votée, mais derrière cette coalition, elle s'est encore élargie, avec des mouvements qui sont là aussi pour défendre la démocratie, avec des scientifiques, avec des malades qui sont tombés malades de ces pesticides. Enfin, quand on voit aujourd'hui que même des scientifiques se mettent à militer parce qu'ils sont extrêmement inquiets de voir que les études scientifiques ne sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques. Quand on voit que des malades, par exemple, avec l'association Cancer Colère qui s'est montée, montent aussi au créneau, on élargit les coalitions. Et ça a quand même généré 2 millions de signatures, plus de 2 millions de signatures sur la pétition lancée par une étudiante. Ça a généré aussi le fait que le Conseil constitutionnel, il n'a pas validé la reconduction et la réautorisation des néonicotides, acétamiprides et autres. Alors certes, il a laissé passer une facilitation sur les mégabassines et sur l'élevage intensif, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et cette coalition, elle va continuer à se battre pour que cette loi soit annulée. Voilà. Les combats ne se gagnent pas en une journée. Ça, c'est vrai. Mais le chemin qui est parcouru, les sillons qui sont tracés quand on a ce genre de mobilisation, ça ne passe pas inaperçu. Moi, je peux vous dire, les pétitions, on me demande souvent, est-ce que ça sert à quelque chose ? Bien sûr, ça sert à quelque chose. Au même titre que tout signe qui va indiquer à ces entreprises et aux décideurs politiques que, en fait, on est nombreuses et nombreux à s'en soucier. Ça ne passe pas, pas vu, pas pris. On voit et on va être en résistance. Et encore une fois, toutes les victoires qu'on a eues, tous les combats aussi qu'on a eus pour des acquis sociaux, enfin que ce soit pour le droit des votes des femmes, par exemple, mais que ce soit pour les congés payés à l'époque, que sais-je, ou si on regarde plus loin, la fin de l'apartheid, tout ça, historiquement, ça paraissait impossible au début. Mais là, on est en train de faire un pied à pied, et tu as raison, merci de le souligner, ces coalitions entre associations, mais aussi pour élargir la mobilisation des citoyens, des citoyennes, y compris vous qui nous écoutez, qui vous dites « moi je me reconnais pas quand on dit les mots militants ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire défendre nos droits ensemble. Et donc, il y a plein de façons de le faire, et plus on est nombreuses et nombreux à signifier, à manifester par plein de façons différentes qu'on est là pour justement ne pas laisser faire et montrer qu'il y a d'autres façons de vivre ensemble, de faire ensemble et de mettre de la démocratie alimentaire, faisons-le.
Du côté des marges, de la résistance, il y a une chose qui est très présente, c'est la créativité. Il y a mille et une expérimentations qui existent, dont celle de la sécurité sociale de l'alimentation, et toutes, ce sont autant de bonnes raisons de continuer d'essayer partout, car oui, il faut s'emparer du sujet de notre alimentation à toutes les échelles.
Effectivement, il faut dénoncer ceux qui verrouillent, mais d'autre part, on peut aussi prendre l'espace là où on en a pour faire des choses à l'échelle citoyenne, quoi, et à l'échelle plus locale, qui est une échelle aussi plus accessible. Donc en fait, il y a plein d'alternatives au système actuel. Il y a plein d'initiatives citoyennes qui se développent partout en France et qui sont hyper intéressantes. La sécurité sociale de l'alimentation en est une, je vais la décrire, mais on a aussi des épiceries sociales et solidaires, on a aussi l'association VRAC, par exemple, qui organise des achats groupés dans les quartiers populaires avec les personnes directement concernées dans les quartiers populaires. Ça leur permet d'acheter des produits, par exemple, bio et sains pour la santé auxquels ils n'auraient pas accès sinon. Bien évidemment, il y a les AMAP pour ceux qui peuvent, donc ça, c'est quand on achète on s'engage à prendre un panier de fruits et légumes auprès d'un producteur local, et puis en fonction de sa production, il met ce qu'il a. Mais donc il y a plein de façons en fait de se réapproprier son accès à l'alimentation, et y compris ces expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Alors de quoi on parle ? Et on parle en fait de principes de base qui sont la démocratie alimentaire et le conventionnement et la solidarité, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un collectif de citoyens et citoyennes plutôt qui représente la diversité sociale et aussi la diversité économique, hein, des familles qui ont plus ou moins de moyens, et qui contribuent à une caisse commune. Donc on met au pot commun de l'argent. Et en fonction de ces moyens, on va mettre plus ou moins. Donc si je prends l'exemple de la caisse de Montpellier, dont on parle souvent parce qu'elle est vraiment suivie et elle a quelques années maintenant, donc on a un peu de recul. Ben eux, par exemple, ils donnent tous les mois à chaque famille qui adhère, ils donnent l'équivalent de 100 euros. En plus, ils ont fait une monnaie locale, donc c'est 100 monas. Mais en fonction de ses moyens, une famille va donner moins de 100 euros ou plus de 100 euros, voyez. Et donc l'idée, c'est que au final, il y a un truc de répartition et de solidarité sur le fait que tout le monde a 100 monas. Mais derrière, il y a aussi le côté démocratique hyper important de choisir où on peut utiliser cet argent. C'est ce qu'on appelle le conventionnement, c'est-à-dire qui on va conventionner, quel producteur, quel supermarché, quel marché, enfin voilà, auprès de qui on estime qu'on peut utiliser cet argent pour aller s'acheter des produits alimentaires. Et c'est défini de façon vraiment démocratique. Il n'y a pas quelqu'un ou des autorités publiques ou je ne sais pas qui viennent décider à la place des gens. C'est les gens, ensemble, qui décident. Et en fait, c'est formidable parce que, d'une part, quand on laisse les gens libres, encore une fois, les gens ne sont pas idiots, hein. Donc, en fait, ce qu'ils racontent dans leur témoignage, c'est que ça leur permet de conventionner des endroits, par exemple des coopératives, des producteurs bio, où ils ne seraient jamais allés sans ça. Donc ça leur donne accès à une alimentation de qualité à laquelle ils n'auraient pas eu accès sinon. Et puis ça va bien au-delà de ça. Ça recrée du lien social. Les gens apprennent à se découvrir, à se redécouvrir, à créer du lien social, à faire des choses ensemble et à redonner aussi de la dignité. Enfin, ils sont pas rares les témoignages, et moi à chaque fois ça me touche beaucoup parce que c'est tellement pour le coup réel, là, on n'est pas dans la théorie. Témoignages de personnes qui disent que au début elles sont venues un peu, elles ont entendu parler, elles sont venues un peu à reculons dans ce groupe en se disant de toute façon ça va être comme d'habitude, on va pas écouter ce qu'on a à dire quoi, mais bon, allons voir de plus près, et qui en fait ils sont restés pendant plusieurs années et ils sont toujours, parce qu'elles témoignent du fait de dire je me suis rendu compte que ma voix a été prise en compte. Mais c'est énorme. Et dans une société où, en effet, malheureusement, cette colère dont on parlait du début, elle dérive d'un certain mépris du fait que la voix des citoyens et des citoyennes n'est pas écoutée, et que même, encore pire, les fois où on a fait croire qu'on allait les écouter avec les cahiers de doléances, ou par exemple la Convention citoyenne pour le climat, finalement, ça a été une grande claque pour tout le monde, que au plus haut niveau de l'État, n'est-ce pas, il a été en gros décidé de dire « finalement non, on s'en fout, on va pas les prendre en compte ». Là, on est à hauteur humaine avec du coup des gens qui recréent ces expérimentations à échelle locale. Moi, je trouve ça formidable et ce sont du coup des exemples incroyablement inspirants et qui, moi, me redonnent beaucoup d'espoir sur bien sûr qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on veut nous faire croire et bien sûr que quand on se met ensemble, il y a une créativité, une solidarité, des valeurs qui rejaillissent, qui sont nos valeurs à nous et pas celles qu'on cherche à nous imposer.
Purée, le temps file. Alors vite, un détour par les poils, mais on retrouvera Karine Jacquemart pour le mot de la fin.
Ouais, moi mes poils, c'est pas trop un sujet. Déjà, j'ai 3 poils sur le caillou, donc ça fait que c'est assez facile à régler, quoi. Un élastique et hop, on est coiffé. Et voilà. Et sinon, non, c'est pas un sujet qui soit long, pas long. Franchement. Ça me préoccupe pas beaucoup. Donc je les laisse pas pousser à l'infini, mais j'en fais pas non plus une espèce de contrainte sociale à laquelle je me plierai quotidiennement, quoi.
On se quitte, mais comme promis, avec un dernier mot de Karine Jacquemart, car vous écoutez peut-être cette émission avant les élections municipales de mars, et voter, c'est aussi un moyen de remettre une cuillère de démocratie dans l'assiette.
Et après, oui, il y a les élections. On a notre pouvoir aussi citoyenne au niveau des élections. Alors je sais qu'on est aussi... Il y a beaucoup de personnes qui se disent « à quoi ça sert ?» Écoutez, pour toutes les populations qui n'ont pas ce droit, qui ne l'ont jamais eu ou qui sont en voie de le perdre, parce qu'on a quand même un recul démocratique très fort, j'ai envie de vous dire, on n'a pas grand-chose à perdre à essayer. Si on se met à faire des listes avec des gens un peu plus dans la diversité, qui représentent un peu plus les intérêts de tout le monde, si on se met à prendre les espaces de pouvoir aussi, là où on peut prendre les décisions, c'est-à-dire là où on peut être élu, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que reprendre le pouvoir, c'est partout, tout le temps.